Cette seconde partie de la matinée, où on va découvrir un partenariat pour un projet de plateforme ABA pour jeunes autistes, dans un instant, et en deuxième partie, des pratiques intégratives au sein d'un hôpital de jour qui accueille les jeunes enfants autistes. Alors, pour nous présenter ce partenariat médico-social EPSM Éducation nationale, nous avons Nicole Forger de l'inspection académique du Haut-Rhin. C'est vous ? Bon, très bien. Chargée d'adaptation scolaire et de scolarisation des élèves handicapés. Nous avons le docteur Chantal Pacalin. C'est vous, chef du pôle interhospitalier de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace. Nous avons Christelle Proust, en vert. Du collectif Autisme Sud-Alsace, qu'on appelle aussi le CASA. Et enfin, Guylaine, ou Ghislaine, je ne sais pas, Rouge d'Igaillard, c'est vous, elle est directrice du pôle enfance-éducation de l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace. Quatre femmes pour nous présenter le projet. Vous avez chacune, vous avez calculé, ça fait combien par personne ?
5 minutes.
Bon, d'accord. Vous tenez 20 minutes en tout ? Ah ben, on va gagner 10 minutes alors. Non, vous avez droit à 30, hein, je vous rappelle. Donc c'est bon. Allez, c'est parti.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite vous présenter un extraordinaire projet qui a été mené et soutenu par la quasi-totalité des associations de parents du Haut-Rhin concernées par l'autisme. En effet, chez nous, jusqu'à présent, aucune structure sanitaire ou médico-sociale ne proposait la science internationalement reconnue ABA ou analyse appliquée du comportement comme prise en charge spécifique de l'autisme en Alsace, sauf dans le service du docteur Dutray. Pour pallier à ça, dès 2006, de nombreuses associations de parents d'enfants TFSA font suivre leurs enfants en pratique ABA par des professionnels diplômés et expérimentés en libéral. Ils sont issus d'universités canadiennes, américaines, belges, néerlandaises ou encore polonaises. Les plus grandes associations vont même former et suivre la totalité de leurs parents à la pratique ABA par des professionnels qualifiés BCBA, tels que Vinca Rivière ou encore Caroline Peters. Mais la demande reste exponentielle. Et cette hémorragie, nous avons aujourd'hui plus d'un demi-million d'enfants TSA qui sont suivis en pratique ABA dans les établissements en Belgique. Cette hémorragie progresse de jour en jour vers d'autres pays limitrophes, comme les Pays-Bas, la Suisse et d'autres pays européens. Ce qui nous pose, à nous parents, un grave problème de prise en charge pour la pratique ABA en France aujourd'hui. Début 2015, le docteur Benoît Dutray, nouveau chef de pôle au PEA du centre hospitalier de Roufac, demande aux associations de parents de se réunir en un collectif unique pour répondre à cette demande croissante en ABA en formalisant leur idée d'une véritable structure spécialisée en ABA, en local, sur le territoire. Le 10 février 2015, le résultat du sondage mis en ligne sur Internet nous permet de quantifier les besoins et les demandes précises en pratique ABA et de constater plus de 220 demandes en l'espace de 3 mois. Le 14 février 2015, l'Agence régionale de santé Alsace nous propose d'imaginer non pas une structure expérimentale, mais bien une structure pérenne sous la forme d'un CESAD autisme en ABA, en intégrant totalement 4 partenaires dans une co-construction, le sanitaire, le médico-social, l'éducation nationale et les parents d'enfants TSA. Avec une forte exigence envers nous, parents, de trouver un partenaire médico-social solide et expérimenté, et surtout capable de mener à bien ce projet hors normes. En effet, la scolarisation des enfants TSA en milieu ordinaire, dans leur quartier, dans leur village, est la colonne vertébrale du projet. C'est une véritable plateforme. Le 23 mars 2015, l'association ADPI Papillon Blanc d'Alsace relève le défi avec enthousiasme et méthode. Le 7 avril 2015, la ministre déléguée au handicap approuve notre projet et le qualifie d'excellent. Elle adhère totalement à la proposition innovante de mise à disposition, dans le cadre de leur activité de secteur, de 6 ETP de l'EPSM vers la plateforme autisme médico-social. Le 31 décembre 2015, arrêté de l'Agence régionale de santé est publié. Et après 8 mois de travail en comité de pilotage stratégique de tous les partenaires réunis de la plateforme CESA d'autisme ABA, on ouvre les portes à nos enfants le 4 septembre 2016. Merci à eux pour leur formidable volonté de réussite. Docteur Dutrait, Monsieur Courteau, merci d'avoir cru en nous. Merci de votre écoute.
Madame Gisten, Rouge du Gaillard.
Voilà, donc directrice du pôle enfance éducation à l'ADPI Papillon Blanc d'Alsace, donc un pôle qui regroupe une dizaine d'établissements, qui va donc de 0 à 20 ans et des jeunes adultes maintenus au titre de l'amendement Creton. Et entre autres, donc, on accueille des enfants présentant un handicap mental moyen profond, des polyhandicapés et des autistes. Voilà. Donc pour vous dire pourquoi on a adhéré à ce projet, donc les associations de parents sont venues nous voir. Et l'association exploitait déjà 2 CESAD. Elle avait ouvert depuis 2015 2 unités d'enseignement maternel autisme, dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on avait quand même une prévalence à l'autisme et une façon d'aborder cette question assez importante. On a trouvé, en tout cas, la présentation des parents dans ce qu'ils avaient envie de monter. On a trouvé ça tout à fait intéressant. Ça nous paraissait un service souple, modulable, et à même de proposer un accompagnement de parcours individualisé. Ça développait des partenariats innovants, ce qu'on avait déjà commencé à insuffler au sein de l'association. Donc on est rentré tout à fait dans ce projet. Donc ainsi que vous l'a dit Madame Proust, pour rentrer dans le projet, on a décidé de constituer un comité de pilotage stratégique, donc qui regroupait non seulement les 4 partenaires de départ, donc le centre hospitalier, le sanitaire, le centre hospitalier de Roufac, les associations de parents, l'association ADAPI et l'éducation nationale. On y a aussi intégré des représentants de l'ARS et des représentants de la MDPH. Ça nous paraissait essentiel pour que le projet puisse aboutir. Donc on a mis en place différentes commissions, donc une commission recrutement, une commission orientation, une commission scolarisation, une commission logistique. On a abondé ces commissions vraiment avec les idées de tous les partenaires. Et c'est ça qui nous a permis d'obtenir de construire un service et un établissement vraiment, vraiment original et performant. Donc le dispositif. Donc le CESAD s'adresse à 30 enfants de 2 à 20 ans avec porteurs de TSA et de leur famille. Donc il peut proposer une prise en charge maximale de 18 heures, ça peut être moins, c'est en fonction des troubles de l'enfant. Et c'est basé sur de l'ABA intensif, avec des interventions du CESAD dans les lieux de vie, de scolarisation des enfants ou à domicile. Et le dispositif est complété par une classe étape. Donc je ne vous la développe pas ici, puisque ma collègue Madame Forget vous la présentera tout à l'heure. L'ouverture s'est faite, ainsi que l'a dit Madame Proust, en septembre 2016. Donc pour l'instant, on est dans des locaux provisoires que l'association avait quittés et qu'on a un peu réhabilités, en sachant qu'on est en train de construire et que je vous montrerai une photo tout à l'heure. Donc l'accueil des enfants s'est fait progressivement à partir de fin septembre. Donc on a délimité aussi, parce qu'ainsi qu'on vous l'a dit tout au long de la matinée, hein, donc la prévalence de l'autisme, c'est quand même un nombre important d'enfants, 1 sur 65, d'autres textes disent 1 sur 52. Donc vous imaginez bien qu'un seul CESAD sur le territoire du Haut-Rhin, un seul CESAD TSA, ça ne peut pas répondre à tous les enfants. Donc on a délimité un territoire, l'idée étant que les professionnels ne fassent pas trop de trajets, hein, donc on a vraiment délimité des communes très précises. Donc malheureusement, voilà, ça laisse quand même beaucoup d'enfants sur le pavé. Donc l'admission est prévue de 2 à 12 ans. Donc on peut accueillir un enfant jusqu'à 20 ans, mais on ne va pas au-delà de 12 ans à l'admission, parce qu'il y a des études aussi qui montrent que l'ABA doit être pratiquée très précocement. Donc on peut aller au-delà, sauf avec avis dérogatoire de la commission d'admission, par exemple pour les jeunes enfants sans déficience cognitive. Donc c'est vrai que la prise en charge précoce permet de bénéficier de la BA intensive, c'est ce qui est visé, hein, et les familles sont étroitement associées à la démarche ABA. Donc ce principe n'est pas un critère déterminant, prédéterminant à l'accueil, hein, de l'enfant. La structure garantit l'accès à tous. C'est vrai que ça, c'est aussi ce que j'ai envie de dire au bout d'un an de fonctionnement, un peu la limite du système. C'est que si les parents, donc on travaille avec eux pour les amener à comprendre l'intérêt de cette science, si les parents n'adhèrent pas, c'est vrai que c'est un peu la limite du système. Donc le processus d'admission. Donc il y a une commission de préorientation de la MDPH. Donc les dossiers des enfants sont instruits dans cette commission. La MDPH établit une notification et ensuite une commission d'admission qui est composée de représentants de la MDPH, de l'ARS, du centre hospitalier, de la direction du pôle enfance, établit les priorités et constitue la liste d'attente. Donc les critères. Donc on a parlé des diagnostics. Hein. Donc les enfants doivent avoir un diagnostic établi selon les indications de recommandation de la haute autorité de santé. Donc le diagnostic de l'enfant est d'abord clinique. Les outils recommandés pour un diagnostic plus formel sont le CARS, pour apprécier le degré de sévérité de l'autisme, le recueil auprès de la famille, de la description du développement précoce de l'enfant avec l'ADI, donc c'est un test qui se fait avec la famille, et la dose qui permet une observation ciblée et standardisée du comportement socio-communicatif. Ou pour les plus jeunes, donc c'est vrai que les tout-petits, puisqu'on, je vous l'ai dit en préalable, hein, on vise quand même une admission précoce, donc pour les plus petits, le diagnostic n'est pas forcément posé. Il faut qu'il soit déjà en cours, hein, qu'il y ait quelque chose qui soit enclenché. Donc au niveau des professionnels, hein, tous les professionnels ont été recrutés au 1er septembre 2016, selon un tableau prévisionnel qu'on avait négocié avec l'ARS, qui a été budgété. Au total, c'est 23 personnes, soit 17,55 ETP, dont 6 professionnels, c'est ça qui est vraiment tout à fait original, 6 professionnels mis à disposition par le centre hospitalier de Roufac, donc 4 professionnels titulaires et 2 contractuels, et 2 professionnels de l'éducation nationale, un coordinateur pédagogique et une enseignante. Donc au niveau des professionnels, beaucoup de métiers éducatifs, bien évidemment, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, hein, et 4 psychologues sur le service. Hein. Les professionnels étaient recrutés en fonction de leurs connaissances et compétences quant aux fondamentaux liés à la prise en charge des enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme. Donc la formation, l'ensemble des professionnels, l'ensemble des professionnels étaient formés à l'ouverture. Il y a eu un gros budget qui a été consacré à la formation à l'ouverture. Donc ils ont été formés par OVA France à la prise en charge comportementale ABA. Et une psychologue a été certifiée instructeur PCM, donc c'est une formation qui permet de gérer de façon professionnelle les crises. Et la professionnelle a formé l'ensemble de l'équipe. Et actuellement, on a lancé une formation à destination des familles et des parents. On a mis en place aussi de la supervision, donc c'est aussi un critère indispensable pour l'ABA. Donc la supervision a débuté en janvier et elle est assurée par une psychologue externe qui est certifiée BCBA. Donc évidemment, tout ça, c'est un coût. Je vous ai mis le budget parce que ça me paraît, c'est malheureusement le nerf de la guerre. Et que c'est vrai que si nos pouvoirs publics n'y mettent pas les moyens, ça devient compliqué. Donc au niveau du CESAD, le budget, c'est 820 000 euros, donc qui se répartit en groupe 1, groupe 2, groupe 3, en sachant que les charges, donc vous avez le tableau à l'écran, hein, en sachant que les charges de personnel, c'est presque 500 000 euros. Au niveau de l'éducation nationale, ça représente plus de 100 000 euros. Et pour le centre hospitalier de Roufac, ça représente presque 300 000 euros. Un total, donc pour 30 enfants accueillis, un total de 1 214 000 euros. Voilà, donc c'est, je pense que c'est vrai que la science ABA nécessite des prises en charge en individuel, des prises en charge très intensives. Donc c'est le prix qu'il faut y mettre. Et je pense qu'il faut qu'on se batte pour arriver à ça. Donc actuellement, sur les 30 enfants accueillis, donc les 10 derniers ont été accueillis au mois de mai. Donc il y en a déjà 19 pour lesquels les progrès sont très très importants. Et on a bon espoir pour les autres aussi. Donc là, je vous ai mis une photo des futurs bâtiments. Voilà, et je vais passer, en espérant être dans les temps, la parole à ma collègue de l'Éducation nationale.
Donc Nicole Forget.
Voilà, donc inspectrice de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés. Il est vrai que le public des enfants et adolescents porteurs de TSA est un public qui nous interpelle, je peux dire sans exagérer, au quotidien. Donc, effectivement, lorsqu'on avait été sollicité par l'association de parents, lorsque ce projet était encore dans les limbes, et puis très vite par l'ARS, nous avons été intéressés par l'aspect collaboratif. Enfin, c'était quand même très intéressant et un peu innovant pour nous de pouvoir collaborer dès le départ avec les partenaires. Autour du projet, on n'était pas du tout dans le même type de démarche que, par exemple, lorsqu'un service de soins ou un établissement médico-social fait simplement une demande de poste pour avoir une unité d'enseignement ou un enseignant pour un CESAD. Voilà. Ce qui était intéressant aussi au départ, c'est que, comme nous avons collaboré à ce projet, nous avons vraiment réfléchi à la pertinence des postes. Il fallait aussi qu'on ait la capacité de convaincre. Vous savez que dans l'éducation nationale, c'est très difficile d'arracher un poste dans une carte scolaire. Et au départ, nous souhaitions avoir trois postes. Et on a vraiment créé des fiches de postes très, très détaillées, devant répondre vraiment à ce projet de CESAD. Voilà, donc le principe était dès le départ d'associer effectivement les objectifs qui étaient ceux des professionnels du CESAD autisme avec des objectifs scolaires, et ça a déjà été dit, avec comme idée force de maintenir autant que faire se peut la scolarisation en milieu ordinaire. Donc pour moi, il y a aussi une valeur éthique dans la conduite de ce projet, parce que la réalité, moi, je pense que dans la salle, tout le monde la connaît, c'est aussi pour ces enfants porteurs de TSA, souvent des histoires de rupture et des histoires qui sont très très douloureuses et pour les familles, mais pour les enseignants aussi. Voilà. Donc, on n'a pas trop eu de difficultés à convaincre nos supérieurs, c'est-à-dire aujourd'hui c'est au rectorat que se trouvent les financiers, parce que quelque part on pouvait vraiment mettre le projet en parallèle à tous les textes récents qui sont ceux de la scolarisation des élèves handicapés, où on parle beaucoup, beaucoup plus de parcours de scolarisation, le mot fluidité, flexibilité dans nos textes, et ça induit effectivement cette collaboration. Voilà. Donc je crois qu'après un an d'existence, on a vraiment réussi à créer la nécessaire coordination entre les acteurs de la scolarisation et les personnes qui travaillent à ce projet veillent chacun à sa place, pardon, oui, à la cohérence des interventions dans l'intérêt de chaque enfant. Donc on a demandé idéalement, on aurait aimé avoir trois postes, mais on a souhaité avoir deux postes. Donc le premier poste est le poste de la classe qu'on a appelée la classe étape. Donc qu'est-ce que c'est que la classe étape ? C'est une classe, on va dire un dispositif, ce n'est pas une classe, un dispositif dans lequel l'enseignant travaille les prérequis à une bonne scolarisation. Donc tous les enfants n'ont pas besoin de passer dans cette classe étape. Certains ont la prise en charge CESAD avec la scolarisation ordinaire dès le départ. Mais vraiment, dans cette classe, l'enseignant travaille les prérequis, l'attention conjointe, la motivation, le renforcement éducatif, parfois seul, avec un enfant seul, avec deux, trois enfants, mais très souvent aussi avec la psychologue ou l'éducatrice qui fait de son côté un travail au sein du CESAD. Voilà. Donc le temps de présence dans cette classe et les objectifs de scolarisation qui sont vraiment conjointement décidés. C'est pas l'éducation nationale qui décide d'un côté ou la plateforme qui donne ces injonctions aux enseignants. Voilà. Et par ailleurs, l'enseignante de cette classe travaille dès le départ aussi avec la classe qui est la classe du secteur, la classe d'origine dans laquelle l'élève peut être ou est amené à être quand les troubles seront un peu réduits. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà dit. Donc... Ensuite, on a créé un deuxième poste et aujourd'hui, je crois qu'on pourrait dire que c'est le poste clé puisque je pense que le projet pourra peut-être même évoluer dans ce sens. Donc c'est un poste de coordination pédagogique et c'est un poste que l'éducation nationale a voulu être un peu sur une double mission, dont une mission au sein du CESAD et l'autre au service plus général de l'éducation nationale. Donc c'est aussi une enseignante spécialisée comme la première, une enseignante qui a été recrutée sur poste à profil, où tout le monde était présent lors de l'entretien. Alors le premier travail qui est celui de cette enseignante, évidemment c'est un travail qu'elle exerce au sein du CESAD. Elle va contribuer par exemple à l'évaluation du profil scolaire pour construire le projet de l'enfant. Elle va observer au sein de la classe étape. Mais le travail essentiel, surtout, c'est qu'elle assure l'interface entre les différents lieux de l'enfant. Elle transmet les informations et elle est très, très souvent dans les écoles auprès des parents. Et on a tout à l'heure, il a été question des AVS. Ça, c'est vraiment un sujet dans lequel on fait beaucoup de reproches à l'éducation nationale. Mais vous voyez, dans ce dispositif, la coordinatrice assure la guidance de l'AVS, parce que l'AVS est aussi vraiment une personne tout à fait importante dans l'évolution de la scolarisation de l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est la... Elle participe aux équipes de suivi de scolarisation. Il y a le GEVASCO. Et ce sont toujours des lieux dans lesquels on peut expliquer et aussi faire comprendre ce que fait le CESAD, parfois pour des enfants qui présentent quand même des difficultés pour les enseignants qui, aujourd'hui, je ne sais pas, dans notre département, en tout cas, la plupart des maternelles ont 30 élèves. Donc, quand on y pose un enfant avec TSA et une AESH, une AVS, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Et donc, ça, après, sa seconde mission, justement, ça, c'est une mission plus large auprès de l'ensemble des enseignants qui sont amenés à accueillir des enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Évidemment, il y en a bien au-delà des 30 qui sont accueillis dans le CESAD. Et donc... généralement, nous sommes interpellés parce qu'il y a des questions, souvent des problèmes, parfois même de très très grosses difficultés. Et donc cette collègue enseignante va intervenir dans les établissements, que ce soit premier degré ou second degré. Il y a la problématique aussi des Asperger quand ils arrivent en lycée. Et elle a donc vocation aussi d'observer en classe, d'aider les collègues, d'informer, de promouvoir les bonnes pratiques, de mettre parfois les enseignants en lien avec des professionnels ou de permettre aussi une meilleure relation entre les familles et le monde enseignant. Donc elle a vraiment là un rôle très important, donc pour les enfants du CESAD bien entendu, pour les nombreux enfants qui sont sur la liste d'attente, et puis pour les enfants porteurs de TSA en règle générale dans le département. Par ailleurs, elle contribue aux actions de formation qu'on organise. On en organise beaucoup, y compris pour les AVS. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Autour de cette plateforme, finalement, parce qu'il y a eu une réflexion conjointe, je trouve qu'il y a eu un travail beaucoup plus large qui a été engagé avec des habitudes de se rencontrer entre professionnels. Et ça, c'est un avantage collatéral qui me paraît extrêmement important. On peut dire qu'il y a autour de ces deux dispositifs, l'UEMA, ça, vous en avez parlé, et le CESA d'autisme, un rayonnement qui bénéficie absolument à tous les enfants et les jeunes adolescents porteurs de TSA, qui bénéficie aux familles et qui un rayonnement qui va vraiment nous permettre aussi de progresser, d'être meilleurs pour ce public. Voilà.
Laissons la parole maintenant au docteur Pacalin du centre hospitalier de Roufac.
Bonjour. Alors, c'est le docteur Pacalin que vous rencontrez et pas le docteur Dutré, puisque le docteur Dutré, effectivement, a quitté le secteur il y a quelques mois. Donc, j'essaie d'expliquer quelle avait été sa démarche. Donc, les constats qu'ont déjà proposés les collègues.
Est-ce que vous pouvez approcher le micro de votre bouche, s'il vous plaît ? Merci.
Pas de souci. Donc, c'est qu'effectivement, l'ABA était globalement peu répandue encore dans le département du Haut-Rhin, qu'il y avait une réelle demande de certains parents pour l'accès à l'ABA, qu'on a vu fleurir, je dirais, un certain nombre de prises en charge ABA par des professionnels libéraux, dont certains sont certainement compétents, d'autres, on l'ignore. On ignore l'efficacité de leur prise en charge, et surtout, il n'y a pas de travail de réseau avec ces professionnels libéraux, malgré nos efforts. Et de surcroît, les parents, souvent, avec ces professionnels-là, quand les enfants sont encore pris en charge dans les hôpitaux de jour, se retrouvent dans un conflit de loyauté, puisqu'on n'arrive pas à travailler avec ces professionnels. Ça crée du clivage et ça manque profondément de cohérence, pour le moins qu'on puisse dire, dans la prise en charge des enfants. Donc ça rend les choses vraiment très difficiles. Et enfin, ces prises en charge libérales ont un coût très important, puisque ça va être du 1200, du 1500, du 2000 euros par mois. La MDPH va aider en partie, parfois totalement, les parents quand c'est possible, parfois pas. Donc ce qui montre quand même l'investissement simplement financier, au-delà du temps, mais déjà financier, que les parents doivent pouvoir mettre en œuvre pour ces prises en charge libérales. Donc effectivement, il y a eu un souhait de co-construction. Avec, je dirais, moi j'ai... J'observe des acteurs volontaires et un contexte favorable, à savoir, bon, déjà, effectivement, les associations de parents très, très porteuses et demandeuses de ce type de structure, un acteur médico-social intéressé, un service de pédopsychiatrie déjà sensibilisé, effectivement, avec des professionnels pas totalement formés de façon typique, mais quand même bien sensibilisés à la question de l'ABA. Une aide possible aussi du CRA enfant qui, au jour d'aujourd'hui, intervient quand même en accompagnant techniquement le CESAD. J'ai oublié sur ma diapo l'éducation nationale pour la très simple raison que pour moi, la collaboration avec l'éducation nationale est tellement une évidence dans le Haut-Rhin que j'ai oublié de les noter. Mais c'est vrai qu'on a les classes intégrées, on a des enseignants mis à disposition. Nous, on va dans les écoles. Donc ça, c'est une collaboration ancienne et de grande qualité. Un contexte national qui était celui du troisième plan autisme et le fait qu'il y avait la création des plateformes autisme. Donc, effectivement, des financements apparaissaient comme possibles. Et enfin, il y avait quand même déjà aussi une culture de dialogue entre le médico-social et le sanitaire. Et comme je disais déjà, avec l'éducation nationale dans le département, avec les associations de famille, effectivement, c'est parfois un petit peu plus délicat. Il y a des associations où c'est plus facile, d'autres un peu moins. La démarche, donc, a été une implication, je crois, extrêmement forte dans la construction déjà du projet de mon collègue, le docteur Dutré, mais également de l'hôpital de Roufac, ici présent avec le directeur, M. Courteau. Un engagement financier majeur, pour le moins, c'est la mise à disposition de 6 agents venant du secteur, effectivement. Donc, nous fonctionnons au jour d'aujourd'hui sur le secteur avec 6 agents en moins. Et enfin, au jour d'aujourd'hui, déjà au niveau de la construction, mais cela continue, le CH participe du COPIL. Alors, quel est l'intérêt pour un secteur de psychiatrie infanto-juvénile de participer à ce type de projet ? Alors déjà, je crois que c'était l'importance de voir se diversifier l'offre de soins autour du TSA sur le territoire. Le CESAD, en soi, alors ça, ce n'est pas une originalité, un CESAD, c'est souple, c'est adaptable au plus près des besoins d'un enfant et de sa famille. Encore que là, c'est un CESAD qui peut monter, comme l'a dit Mme Rouget-Digaillard, à 18 heures. Tous les CESAD que nous avons ne montent pas à 18 heures de prise en charge chez les gamins. Des interventions qui se font sur site chez eux, la classe étape par exemple, au domicile, en milieu scolaire, donc un petit peu dans tous les endroits où peut être un enfant. La garantie d'une pratique d'ABA certifiée. Je reviens sur ces libéraux dont certains sont certainement très compétents, d'autres on l'ignore. Donc toute l'équipe a une formation de base, une formation continue et une supervision. Et enfin, comme dit, les programmes peuvent être intensifs, ce que le sanitaire ne peut pas faire. Mes collègues ont évoqué le problème du coût des formations. Effectivement, on ne peut pas, de notre côté, former plusieurs agents à la technique ABA pour la mettre en œuvre de cette façon-là. Ça, en sanitaire, en tout cas, je ne rêve pas. Par ailleurs, l'intérêt, c'est également un accès possible pour les familles modestes. On a vu tout à l'heure le coût très important quand les parents font appel à du libéral. Là, en l'occurrence, la prise en charge est entièrement faite par l'institution. Les 6 agents qui ont quitté le service ont quand même permis de faire démarrer, je pense, dans de bonnes conditions, ce CESAD, avec des professionnels déjà largement formés, experts dans l'autisme. Avant même d'être expert dans l'ABA, il faut déjà savoir ce qu'est un enfant autiste et comment on le gère. Donc, effectivement, ça a permis la mise à disposition de professionnels très experts de l'autisme de la petite enfance, ce qui a certainement facilité ce démarrage, l'accueil des enfants et plus encore les enfants qui venaient de chez nous, bien évidemment. Il y a eu un engagement moral, ceci dit, de la part du CESAD pour accueillir de façon un peu privilégiée des enfants venant du secteur en échange des 6 agents mis à disposition. Alors je dis que c'est moral parce que ce n'est pas gravé dans le marbre et on ose imaginer que ça se poursuivra. Mais c'est vrai qu'une partie des enfants du secteur avait la garantie de trouver une place dans le cadre de ce CESAD. Le retour qu'on en a au jour d'aujourd'hui. Donc pour nous, ça nous permet une prise en charge en relais des hôpitaux de jour. Donc c'est vraiment un relais complet. Les enfants quittent le secteur avec un projet global pour ces enfants, avec effectivement multiprofessionnels, vraiment une prise en charge que je qualifie de globale dans tous les secteurs de vie de l'enfant. Pour les enfants qui viennent de chez nous, du moins, ça répond à des indications posées par des pédopsychiatres, par un secteur, par une équipe, pour aller vers ce type de CESAD. C'est l'expérimentation d'une collaboration forte et d'une co-construction, donc médico-social, sanitaire, je rajoute les associations de famille et l'éducation nationale. Et enfin, ça paraît un peu pragmatique, mais le retour est un petit peu technique, dans les actes Edgar, RIMPE, que nous récupérons de l'activité de ces agents. Parce qu'effectivement, ces agents restent salariés du centre hospitalier de Roufac, donc il faut effectivement pouvoir témoigner de leur activité. Les limites, parce qu'il y a malgré tout effectivement quelques limites. Mes collègues l'ont déjà signalé tout à l'heure, l'ABA n'est pas indiquée pour tous les enfants autistes, ça ne marche pas pour tous les enfants, ce n'est pas une baguette magique, universelle, mais ça marche pour un certain nombre d'enfants et un certain nombre de familles, et je crois que dans ce cas-là, il faut qu'effectivement les financements publics puissent également proposer cet outil de soins aux familles. Une limite qui est un petit peu technique aussi, c'est les parents restent impliqués dans le transport de leur gamin. Quand le gamin va sur le site du CESAD, ce sont les parents qui doivent l'amener. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les familles modestes ont accès au CESAD, mais pas les familles précaires, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'ils n'ont pas de voiture, on oublie. C'est des petites choses. Bon, comme dit, le dispositif est de façon saturé, mais reste que les très précaires, c'est un peu plus compliqué. Et il y a aussi, je ne sais pas, Mme Rougédicat, si vous l'avez dit, mais ça ne couvre qu'une partie du territoire du Haut-Rhin. Je crois qu'on a 3 plateformes. D'accord. Donc, ça ne couvre qu'un tiers du territoire du Haut-Rhin. Et comme dit, Mme Rougédicat l'a signalé, les parents doivent être fortement impliqués. Donc, à la base, nous, déjà, nous choisissons, nous sélectionnons sur des indications médicales les enfants et les familles que nous pourrons flécher vers ce type de structure, tout comme vers l'UEMA. L'école maternelle, c'est un petit peu le même type de famille. Donc, c'est des familles qui doivent déjà comprendre en amont ce qu'est l'ABA et après doivent pouvoir mettre en œuvre chez eux. Et je crois que c'est quand même très lourd pour certaines familles. Donc, ce n'est pas possible pour tous. Mais ça reste un outil intéressant dans le champ des différents outils de soins que nous devons pouvoir proposer aux familles. Et donc, comme dit, le dispositif est largement saturé au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a déjà 30 enfants, qu'il y a une liste d'attente. Donc, même si ça ne concerne qu'un nombre limité de familles, pour autant, on en a toujours trop. Je vous remercie.
Merci, Mme Pacanin.